d'Ouïman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 janvier 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. 14 militants du parti CNL en province Ngozi écopent d'une servitude pénale de 10 ans, d'une amende de 200 000 francs burundais chacun, ainsi que le versement d'un dédommagement des victimes de 12 millions de francs burundais à payer collectivement. Cette sentence a été prononcée hier par le tribunal de grande instance de Ngozi contre ces gens pour tentative d'assassinat et autres infractions. Éducation, des enseignants vacataires à Muyinga réclament les frais de leurs prestations non débloquées depuis l'année scolaire 2016-2017. Et le lycée Don Bosco de Ngozi a adopté une nouvelle méthode de communication par téléphone portable avec les parents. Et cela pour un meilleur encadrement quotidien des élèves. Nos correspondants seront en ligne pour nous en parler. Des adeptes de la voyante Zébi affirment avoir réussi leur intégration sociale après des années d'exil en République démocratique du Congo et au Rwanda. La commune de Wugendana est la première à en accueillir beaucoup dans la province de Gitega. Reportage à suivre dans ce journal. Et dans la rubrique Parlons Femmes, on entendra les témoignages des femmes de la colline Tchougno de la commune Wugendana en province Cibitoke qui affirment que leur niveau économique s'est amélioré grâce à l'adhésion aux tontines. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Bonjour. 10 ans de servitude pénale, une amende de 200 000 francs burundais chacun, ainsi qu'une somme de 12 millions de francs burundais de dédommagement des victimes à payer collectivement. Telle est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi contre 14 militants du parti CNL, originaire des communes Marangara et Kiremba en province Ngozi. Ils sont accusés de tentatives d'assassinat, destruction des immeubles et champs sur la colline Kagina à Marangara. Ils étaient de retour de l'ouverture d'une permanence de ce parti dans cette commune. C'était le 15 décembre 2019. Maître Onésime Kiwatura, avocat de la défense, dit être étonné par cette condamnation. Il déclare qu'ils ont déjà interjeté appel à la cour d'appel de Ngozi. Certains habitants du quartier Mouwone de la zone urbaine de Buterere, au nord de la capitale Bujumbura, affirment que la circulation sur le tronçon reliant ce quartier à la zone Kinama est quasi impossible quand il pleut. Ils disent qu'ils sont obligés de passer dans l'eau suite aux pluies intenses qui s'abattent ces derniers jours sur la localité. Ils demandent aux concernés de réhabiliter cette route. Le constat d'Adrien Dimorokundo.
Cette route qui dévie de la route nationale numéro 9, précisément à Kanga, en passant par Imoune vers Malambia, est endommagée suite aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours. Cette route où s'observent des nids de poules est remplie d'eau stagnante. Certains habitants qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que la circulation n'est pas facile.
Ne vois-tu pas ça? Alors que tu es passé par là, ici la route ne passe pas bien. Nous restons agités comme un arbre dans l'eau. Ni nous les piétons. Ni les motocyclistes, ni les chauffeurs des voitures. Personne n'est à l'aise. Nous sommes malheureux.
Ils disent aussi qu'ils sont obligés de passer dans l'eau ou se faire porter en se déplaçant.
Ces personnes nous portent sur leur dos. Nous les donnons de l'argent, soit 500 francs ou 300 francs. Or, nous sommes pauvres. C'est un problème.
On endosse les passants sur le dos pour faciliter le passage. En plus, les voitures chargées doivent être déchargées pour traversée.
Ces habitants demandent aux concernés la réhabilitation de cette route pour faciliter leurs travaux quotidiens.
Nous demandons nos dirigeants, ministres et sénateurs de nous aider en construisant les bonnes routes. Il fallait que nos dirigeants organisent des réunions du peuple pour que nous puissions aussi contribuer au moins 500 francs, même si nous sommes pauvres, pour que notre route soit réhabilitée.
Je suis tombé dans l'eau. Que puis-je faire? J'invite les parties prenantes à réhabiliter notre route.
Comme elle indique cette population, les activités de réhabilitation de cette route avaient commencé il y a des et demandent le commencement des travaux de réhabilitation.
Adrien Dimurukundo, stagiaire à notre station. Les habitants du quartier Kajiji de la zone Kanyosha en commune urbaine de Moua, riverains de Kizingwe, disent que leurs biens, y compris leurs maisons, sont menacés par des eaux de cette rivière. Ses habitants estiment que ce danger est provoqué par l'arrêt des activités de viabilisation du nouveau quartier Ngengawusoro. Ils demandent l'intervention des autorités habilitées. Les détails avec Ezekiel Ndikumwenayo.
Arrivé au quartier Kajiji, l'un des quartiers de la zone Kanyosha, précisément au bord de la rivière Kizingwe, certaines maisons ont été détruites et d'autres sont menacées d'écroulement et d'autres peuvent tomber dans cette rivière. Des habitants riverains de Kizingwe, craignant d'être emportés par des inondations, sortent de leur maison chaque fois qu'il pleut. Nous vivons une hyper panique. Personne ne dort. On reste dehors, désemparés. Quand il pleut, on sort de nos maisons. Ces habitants estiment qu'ils sont victimes des inondations du quartier Ngengausoro, dont les travaux de viabilisation ont été arrêtés.
Cette rivière, depuis les hautes collines, vient avec une grande force et les caniveaux tracés au niveau de Nyinga se déversent dans Kizingwe. Arrivé à notre niveau, c'est un problème. Certains de nos voisins ont déjà déménagé car les ravins s'écroulent du jour au lendemain et voilà que c'est notre tour.
Les initiatives de protection des rives de cette rivière sont sans effet, déplore-t-il. Il demande la protection des rives de cette rivière.
On fait des soutènements, on a planté des arbres, mais ça ne tient pas du tout. Moi, je trouve qu'il faut construire un digue. On a planté des bambous, des eucalyptus et d'autres arbres, mais sans succès. Nous demandons l'intervention de l'État.
À son sujet, contacter le chef de zone Kanyosha, Jean-Pierre Nyonkuru, dit qu'il est au courant de cette situation et qu'il a transmis le rapport aux autorités supérieures.
Merci Ezekiel. On retournera à Kanyosha. Ce sera pour parler de la reprise des travaux de réhabilitation du marché de Kanyosha qui ont commencé ce lundi. Éducation à présent, les parents et un des élèves au lycée Don Bosco Dongosi saluent la nouvelle méthode d'encadrement quotidien de leurs enfants à l'aide d'un téléphone portable. Cette technique leur permettra de suivre régulièrement les résultats des évaluations et même le comportement de leurs enfants, indique Père Corneille Mbaga, directeur de cet établissement scolaire. Dongosi, nous appelons Apollinaire Muzagara.
Comme l'indique le directeur de ce lycée, tout parent sera au courant des points obtenus par son enfant chaque fois qu'il passe une interrogation grâce à un nouveau logiciel y installe. Une fois enregistré dans les ordinateurs du lycée Don Bosco, la note obtenue apparaîtra immédiatement dans le téléphone d'emport. Père Corneille Mbaga précise qu'on n'a pas besoin obligatoirement d'un téléphone Android plutôt que toutes sortes de téléphones est éligible. Pas seulement les résultats des évaluations, le parent suivra à tout moment la conduite de son enfant étant à son domicile ou au lieu de travail, ajoute son directeur. De cette façon, les parents ayant des enfants à ce lycée ne seront pas étonnés par les résultats des cours ou de l'éducation à la fin du trimestre et même à la fin de l'année. Aux parents qui ne sont pas en possession de téléphone portable, il leur conseille de donner le numéro de leur voisin ou de quelqu'un d'autre en qui ils ont confiance et de vérifier à ce lycée si les numéros donnés par les élèves sont réellement ceux des parents et non ceux de leurs amis qui s'en foutent de l'éducation de ses enfants. Les parents saluent cette technique d'encadrement à distance mais demandent que la somme de 2000 francs exigée par an ne soit pas revue à la hausse pour que même les moins nantis puissent continuer à bénéficier de cette nouvelle technique. Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro.
Merci Apollinaire. Éducation toujours dans la province voisine de Muyinga. Des enseignants vacataires à Muyinga réclament les frais de leurs prestations non débloquées depuis l'année scolaire 2016-2017 au moment où ils posent la condition du paiement cash sur base des contributions des parents pour continuer à prester. Le chargé des finances à la direction provinciale de l'enseignement à Muyinga demande aux concernés de patienter, expliquant que les rapports ont été transmis à qui de droit, comme nous le rapporte notre correspondant Dieudonné Zeyman.
En réclamant les dus, les enseignants vacataires s'adressent au directeur d'école. Certains des responsables d'établissement signalent être gênés par des enseignants les prenant pour des tourneurs de leur argent, alors que les directeurs ne cessent de réclamer à leur tour auprès de la direction provinciale de l'enseignement. Des vacataires avec désespoir exigent cette fois-ci un autre système de paiement, le cash, sans attendre les sous du ministère. Ce sont les parents qui supportent la facture. Des directeurs ont besoin de vacataires majeurs. Le Minerval entre 500 et 2000 francs par trimestre. Certains des parents annoncent être lésés, surtout ceux qui ont des enfants du 4e degré du cycle fondamental. À la direction provinciale de l'enseignement, le chargé des finances interrogé à ce sujet invite les enseignants vacataires à ne pas cautionner les rumeurs. L'argent réclamé n'est pas encore décaissé. C'est une question connue par le niveau central. Par rapport aux contributions, ça relève de l'entente entre parents à travers les assemblées générales organisées par les directeurs à l'endroit de tous les parents. Muyinga, Dieudonné Zeyman, Radio Isanganiro.
venir.
Des stands du marché de Jabey restent toujours fermés depuis son ouverture. Leurs propriétaires ont déménagé vers d'autres marchés. Le commissaire de ce marché fait savoir qu'ils sont en train de les sensibiliser pour y revenir. Isidore Hawoniman.
Nous sommes au marché de Jabey nouvellement réhabilité. Arrivé à ce marché en passant à côté sud de ce marché, le constat est que beaucoup de stands sont fermés. En avançant au milieu de ce marché, on y trouve peu de stands ouverts. Certains commerçants qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que les propriétaires des stands ont préféré déménager vers d'autres marchés au fait qu'ils travaillent à perte dans ce marché.
Depuis l'ouverture de ce marché, certains commerçants ont constaté que l'espace de leurs stands sont insuffisants. Pour cela, ils ont pris une décision de déménager vers d'autres endroits.
Ces commerçants font savoir qu'ils travaillent en perte suite au manque de clients. Ces derniers demandent à ses collègues de revenir travailler dans ce marché de Jabey.
Si ces clientèles qui se trouvent là-bas chez Sion, qui viennent ici pour mener ces activités ici au marché de Jabey, nous demandons si c'est possible que ces gens viennent ici pour mener ces activités ici au marché de Jabey.
Il y a d'autres petits marchés qui se trouvent aux alentours de ce marché qui sont multiples. L'État devrait prendre les décisions pour que ces commerçants de ce marché puissent revenir au marché où on y
parlait. Abad Habonimana, commissaire de ce marché de Jabey, indique qu'ils sont en train de sensibiliser les propriétaires de ces stands afin qu'ils puissent intégrer les stands.
C'était Isidore Awonimana, stagiaire à notre station, je vous l'avais dit. Des travaux de réhabilitation du marché de Kanyosha ont repris ce lundi. Certains commerçants estiment que ces travaux auraient dû commencer par la construction des kiosques. Selon les conventions, ces kiosques seront construits à partir de la semaine prochaine, comme le dit le représentant des commerçants de ce marché, Moïse Misago.
Cette dalette du marché de Kanyosha, où les travaux de réhabilitation ont repris au début de cette semaine. Les commerçants de ce marché apprécient positivement, mais demandent l'accélération des travaux afin qu'ils quittent l'extérieur de ce marché où ils vaquent à leurs activités pour le moment. Certains commerçants de ce marché estiment que ces travaux devraient commencer par la construction des stands communément appelés kiosques.
Il y a plusieurs petits marchés qui se sont constitués à gauche, à droite et dans ce quartier. L'État devrait fermer ces petits marchés afin d'être regroupé dans un marché reconnu par la loi.
À ces inquiétudes, le représentant des commerçants de ce marché précise que les travaux de construction de ces kiosques sont prévus la semaine prochaine. Gad Minani appelle les commerçants à payer les avances exigées. Selon les conventions avec la société en charge de réhabilitation de ce marché, le représentant de ces commerçants indique que le marché pourra rouvrir ses portes au début du mois de mars si rien ne change.
Parlons femmes.
Des femmes de la colline Chougno de la commune de Buganda en province Chibitoke, adhérents à des tontines, témoignent que ces dernières relèvent leur niveau économique. Elles expliquent que grâce à ces tontines, elles sont capables de nourrir et de scolariser leurs enfants. Néanmoins, elles déplorent le fait qu'il y ait des membres qui ne remboursent pas la dette après avoir collecté la contribution de tout le groupe. Et pour pallier à ce défi, le conseiller de l'administrateur communal Ouganda suggère la mise en place d'un texte légal régissant les tontines. Vestine Boutoyi a rencontré ces femmes.
Ces femmes de la colline Chougno, commune Buganda en province Chibitoke, regroupées en tontines, disent que leur motivation a été la misère dans laquelle elles vivaient et de ce fait, elles voulaient s'en débarrasser. Espérance Nizigimana, riveraine de la colline Chougno et membre d'une tontine de la dite localité, fait savoir qu'au début, tout le groupe contribuait mensuellement une petite somme d'argent qu'elles vont donner comme crédit à tour de rôle à chaque membre de ce groupe.
Nous avons commencé cette tontine avec un petit capital. Chaque membre contribue 500 francs par jour.
Grâce à cette tontine, Espérance affirme qu'elle est capable de nourrir et de scolariser ses enfants.
Cette tontine m'aide financièrement à satisfaire mes besoins. Après avoir vendu ces bananes, je peux même acheter les cahiers pour mes enfants.
Fait confirmé par son voisin Egide Mvuyekule, il explique que la femme peut contribuer au relèvement du niveau économique du foyer grâce à ses tontines en achetant par exemple un animal domestique.
Les tontines sont prises avantageuses parce que quand la femme est son tour, elle est capable de se procurer d'un animal domestique ou bien se vêtir.
Cependant, la non-tenue de la promesse à l'endroit de certains membres de la tontine est un défi majeur qui handicape le bon déroulement des activités des tontines, déplorent ces femmes en expliquant qu'il y a des gens qui ne remboursent pas le crédit contracté auprès de ces tontines.
Oui, les défis ne manquent jamais. Par exemple, vous voyez que nous sommes mariés. Le mari peut exiger à lui donner tout l'argent qu'on a emprunté pour ses propres fonds. De plus, un membre de la tontine peut refuser de payer l'emprunt qu'on lui a accordé pour que le tour des autres arrive.
Pour faire face à ce défi, Alexis Sibomana, conseiller de l'administrateur communal de Buganda chargé de l'administration des affaires sociales, propose la mise en place d'un texte légal régissant les tontines.
Ce traître garde la tête haute, arguant qu'il n'y a pas de loi régissant les activités de tontines. Il explique que même s'il serait traduit en justice, on n'aurait pas de preuves. Je proposerai à ce que les activités de ces tontines soient suivies de près, sans oublier la mise en place d'une loi les régissant.
Alexis Sibomana appelle les autres femmes à adhérer dans des tontines pour contribuer au développement de leur foyer.
À la source, reportage.
Je l'avais annoncé dans les titres, en province Gitega, les adeptes de la voyante Zébi affirment avoir réussi leur intégration sociale sur leur colline d'origine après quelques années de fuite vers la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les autorités collinaires de la commune Bugendana appellent ces adeptes à continuer la bonne cohabitation en respectant la réglementation du pays. La commune Bugendana est la première à accueillir un grand nombre de ses adeptes qui se sont rapatriés par rapport aux autres communes de Gitega. Reportage de Fidèle d'Antoine Sabimana.
C'est le chef de colline Kibungo de la commune Bugendana qui parle d'une réintégration réussie des adeptes des Ebi, de leur retour du Rwanda et de la RDC vers où ils avaient fui. Joseph Bararufise, chef de colline Kibungo, qui a aussi une fille fraîchement rentrée du Rwanda, indique que sa fille est pris de sa manière qu'elle ne gêne personne. Il prie et c'est pas un problème seulement. Je ne veux pas d'attroupement chez moi. Joseph Ndaïsaba, qui fut un catéchus catholique avant de rejoindre la voyante Zébi, dit qu'ils sont prêts à observer la loi du pays.
Nous devons respecter l'ordre et la loi du pays.
Nyabenda Leonidas, chef de sous-colline Kavumu, qui a vu aussi sa fille rentrer, dit qu'elle est satisfaite du comportement actuel de sa fille. Quand je lui dis de préparer à manger et qu'elle accepte, pas de problème. Mais quand on met du sel, il ne mange pas. Joseph Ndaïsaba, un adepte des Ebi, explique ce fait de ne pas manger du sel.
On mange du sel de Vinza, mais pas n'importe lequel.
Nyabenda Leonidas, chef de sous-colline Kavumu, fait savoir que les femmes et filles qui étaient parties, personne n'est revenu enceinte ou avec un bébé, ce qui explique selon lui qu'ils ne commettaient pas d'adultère là où ils étaient. Ceux qui sont partis enceintes, ils sont revenus avec des bébés, mais pas de nouveaux bébés. Même la mienne est revenue seule. Concernant les activités politiques, ces adeptes disent qu'ils n'entrent pas dedans, mais qu'ils peuvent élire leurs autorités, comme le dit Joseph Ndaïsaba.
Élire, c'est un droit pour un citoyen qui aime son pays. On va élire.
La commune Bugendana vient en tête du classement des communes de Gitega qui ont accueilli les adeptes des Ebi en grand nombre et ont enregistré à elles seules entre 120 et 150 depuis l'année 2016.
Fidèle d'Antoine Sabimana, merci pour ton reportage. Et pour boucler ce journal en République démocratique du Congo, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, y est arrivée ce jeudi matin à Bunia, en Ituri, et c'est sa première visite dans ce pays où elle devrait rencontrer le gouverneur, les forces de sécurité et les différentes communautés. Première étape d'une visite de 5 jours avant de se rendre à Kinshasa pour des rencontres plus politiques. Cette visite intervient dans un contexte très particulier, à quelques heures du premier anniversaire de la première transition pacifique au Congo. L'Ituri était presque un passage obligé. Son bureau au Congo vient de publier un rapport qui pointait de possibles crimes contre l'humanité, voire de génocide dans cette province. En effet, depuis décembre 2017, au moins 700 personnes ont été tuées, dont plus de la moitié de la communauté Hema. Et ce sont des groupes de la communauté Lendu qui, expliquait l'ONU, cherchaient à traumatiser les populations Hema pour récupérer leurs terres. Des scènes de violence qui rappellent les pires heures de la guerre d'Ituri entre 1999 et 2003. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Placide Niomongere qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Eric Ouimana. Je lui dis merci. Au micro Jean Bosco Ndouimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.